RFI. La carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Bonjour à tous, bienvenue. Dans 30 minutes, nous parlerons football, maintenant que l'on connaît les 24 équipes qualifiées pour la prochaine Coupe d'Afrique. Dites-nous ce que vous pensez de cette liste, de certaines qualifications surprises ou au contraire d'équipes éliminées trop tôt. On a envie de vous entendre. Vous connaissez la marche à suivre pour participer, nous téléphoner, nous écrire sur Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi nous laisser un message sur WhatsApp au 33 6 89 28 53 54. Même chose si vous souhaitez participer à la première partie de l'émission. Si vous avez une question sur l'actualité, vous nous interpellez et nous vous répondons chaque matin avec des chercheurs et les journalistes de RFI. La première question ce matin nous vient de Douala au Cameroun. Bonjour Claude.
Bonjour Anne Campner, bonjour à la grande équipe qui réalise cette émission. Bonjour également aux spécialistes qui nous accordent un peu de son temps ce matin.
Ben merci à eux, effectivement. Merci à vous de nous solliciter pour aborder, approfondir certains sujets. De quoi vouliez-vous nous parler ?
Ah ben alors, je vais parler ce matin du blanchiment de Donald Trump dans la collusion sur les ingérences russes lors de la campagne présidentielle 2016. Alors, mes questions. Trump est accusé d'obstruction à la justice dans cette affaire. Qu'en est-il exactement de cette accusation ?
Alors, nous sommes en ligne avec Françoise Coste, professeur de civilisation américaine à l'Université de Toulouse. Jean Jaurès, bonjour.
Bonjour.
Avant de répondre à cette question de Claude, on va peut-être rappeler le fond de cette affaire qui fait débat depuis 2 ans aux États-Unis. Pourquoi le ministère de la Justice en est-il arrivé à enquêter sur des ingérences russes dans la campagne électorale de 2016 ?
Des soupçons sur le fait que le gouvernement russe et les services russes ont aidé Trump pendant la campagne et ont saboté Hillary Clinton, par exemple, en organisant en hackant ses emails et en les faisant fuiter dans la presse via Wikileaks, tout ça, ça remonte à la campagne de 2016. Ce qui a accéléré les choses, c'est qu'au printemps 2017, juste quand Trump est devenu président, il a renvoyé James Comey, qui était à l'époque le directeur du FBI, qui avait commencé à enquêter sur cette éventuelle ingérence russe. Et le fait de renvoyer le directeur du FBI a provoqué cette enquête pour voir si le président donc avait été aidé par les Russes et aussi, les deux choses sont liées, s'il avait essayé de faire entrave à la justice, obstruction à la justice, comme on dit en anglais, pour empêcher le FBI de découvrir la vérité.
Donc un résumé de l'enquête a été rendu public. Donald Trump est totalement disculpé concernant une éventuelle collusion dans cette affaire d'ingérence. Mais il y avait donc cet autre volet concernant l'obstruction à la justice, notamment parce que, comme vous le rappeliez, il avait demandé au patron du FBI de laisser tomber l'enquête avant de le limoger. Aussi parce qu'il a dénoncé une campagne de dénigrement contre lui. Françoise Coste, sur ce point précis, que dit le ministre de la Justice à propos du président américain ?
Alors, vous avez raison de dire que c'est un résumé du rapport hein, qui établit tout ce que vous venez de décrire, parce que le rapport, personne ne l'a vu. C'est bien ça le problème. Le procureur Mueller a rendu son rapport au ministre de la Justice, M. Barr, qui, vous avez raison, en a fait un résumé, mais c'est une lettre, hein, c'est même pas un mini-rapport, c'est une lettre qu'il a envoyée au Congrès ce week-end. Et cette lettre dit 2 choses. Qu'il y a eu en fait que les Russes sont intervenus parce que on peut pas nier que quelqu'un était allé fouiller dans les emails d'Hillary Clinton, mais que cette intervention des Russes, elle était, si vous voulez, unilatérale. C'est pas Trump qui est allé demander aux Russes d'intervenir. Donc rien n'était organisé entre Trump et les Russes. Ça, c'est quand même acquis, ce qui est problématique en soi. Mais effectivement, d'après le ministre de la Justice, donc Trump est comme l'a dit votre auditeur, complètement innocent de ça. Certes. Par contre, sur le deuxième point, l'obstruction de la justice, le procureur Mueller dit « je ne décide pas ». Il y a des éléments qui préfèrent penser que oui, il y a obstruction, d'autres qui disent que non, et il délègue la décision au ministre de la Justice, M. Barr, et M. Barr, lui, dans sa lettre du week-end, a dit « finalement, moi, je décide qu'il n'y a pas eu obstruction ». Donc là, sur la question de l'obstruction, Trump est innocenté par son propre ministre, pas par le procureur spécial qui a mené l'enquête.
Pas par le procureur. Claude, vous êtes toujours en ligne avec nous. Vous aviez une autre question, je crois, à propos de cette affaire.
Évidemment, Anne. Oui, j'ai une deuxième question. Je voulais demander à Françoise Cosse de savoir quelle a été la réaction de la Chambre des représentants. Peut-on imaginer qu'il dépose un recours?
La Chambre des représentants qui est à majorité démocrate, que peuvent faire l'opposition? Que peut faire l'opposition, Françoise Coste?
Alors, Claude a tout à fait raison de poser cette question, parce que c'est la question qui va devenir majeure à partir de maintenant. Tout le monde attend la réaction des démocrates, qui ont donc effectivement la majorité. Pour l'instant, les démocrates ont été un peu pris de court, on dirait. Ils pensaient que le rapport serait plus concluant. Le fait qu'il donc soit Michèvre Michou, ils ne s'y étaient pas préparés et pour l'instant ils n'ont pas pris de position officielle. Ce qui semble se dessiner, c'est que les deux leaders démocrates à la Chambre, Nancy Pelosi à la majorité, et le leader de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, ont demandé lundi, je crois, au président républicain du Sénat, Mitch McConnell, de rendre le rapport public. Mais cette fois-ci, le rapport en entier, pas juste ce résumé du ministre. Et hier soir, Mitch McConnell, le républicain, leur a signifié une fin de non-recevoir. Les républicains du Congrès refusent de rendre le rapport public. C'est un premier problème. Et maintenant, les démocrates, ce qui leur reste comme option, c'est peut-être, mais là, c'est une hypothèse, hein, de convoquer directement le procureur Mueller devant la Chambre.
L'entendre et donc obtenir par ce biais ce qu'ils n'ont pas pu obtenir dans la demande que vous évoquez, c'est-à-dire connaître l'intégralité du rapport qu'a rédigé le procureur. Merci beaucoup Françoise Coste d'avoir répondu aux questions de Claude. Bonne journée. Retour au standard où nous attend Salvador. Bonjour.
Bonjour Anne.
Vous nous appelez de Goma, en République démocratique du Congo. De quoi vouliez-vous nous parler?
Bonjour Anne, bonjour à tous les invités de RFI. Je voudrais parler sur la route de la soie. Le président chinois Xi Jinping vient d'effectuer une tournée en Europe. Et en Italie, il a été reçu à Rome par les autorités italiennes. Il les a intéressés et obtenu leur adhésion au projet de la construction des routes de la soie. Alors ma première question est celle-ci. Quel est l'intérêt de l'Italie à adhérer à ces projets pour lesquels un contrat d'ailleurs a été signé?
En ligne avec nous pour vous répondre, Jean-François Di Maglio, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous présidez l'Institut de recherche Asia Centre. Alors, que gagne l'Italie en s'associant à ce grand projet du président chinois qui est les nouvelles routes de la soie? Que sont les nouvelles routes de la soie?
Alors, dans l'immédiat, c'est surtout une position qui la distingue du reste de l'Europe, puisque c'est le premier pays, non seulement d'Europe occidentale, mais même du G7, à signer cela. Donc, on va dire que ce qu'elle gagne, c'est surtout un espoir. C'est-à-dire un espoir d'avoir des ressources chinoises dans des infrastructures, en particulier le port de Trieste et aussi le port de Gênes. On sait aussi que l'Italie a besoin de rénover ses infrastructures. On a eu cet accident dramatique l'été dernier avec le pont à Gênes qui s'est effondré. Donc, des financements, on va dire, en premier lieu. Ceci étant dit, rien n'est garanti. Signer un papier comme celui que la Chine et l'Italie ont signé, c'est un engagement de principe. Il va y avoir, bien sûr, des modalités pratiques, mais aujourd'hui, on en est à l'engagement de principe. Donc, c'est cela qu'elle gagne. Une avance peut-être sur d'autres pays européens de l'Europe occidentale qui n'ont pas encore signé. Mais il faut être extrêmement prudent sur ce qui est concret derrière tout ça, puisque le papier est encore très vague.
Donc il y a beaucoup de points qui restent encore à éclaircir. Salvador, est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez savoir concernant ce grand projet et cet accord entre la Chine et l'Italie?
Justement, je voudrais savoir pourquoi beaucoup d'autres pays de l'Union européenne émettent des réserves quant à ce rapprochement entre l'Italie et la Chine.
C'est vrai que depuis l'adhésion de l'Italie à ce projet chinois, l'Union européenne en tant qu'organisation et plusieurs pays européens ont fait part de leurs réserves, voire carrément de leur inquiétude. Jean-François Di Meglio, pour quelles raisons cette inquiétude et ces réserves?
Alors, c'est deux raisons principales. La première, c'est que l'initiative qu'on appelle encore la route de la soie, qui a plusieurs noms, mais bon, on va l'appeler la route de la soie, c'est une initiative qui est partie de Chine, avec des principes, on va dire, chinois, c'est-à-dire un cadre contractuel qui est très vague. Et donc, le côté à la fois unilatéral, c'est-à-dire on vient vers vous et on vous propose quelque chose à quoi vous n'avez pas réellement de possibilité de modification. Ça n'est pas une négociation. On vous dit, voilà le papier, est-ce qu'il vous plaît, est-ce qu'il vous plaît pas. Donc, premier problème, c'est unilatéral et ça reste vague, comme je l'ai dit à propos de l'Italie. Deuxième problème, il y a une inquiétude, qui, celle-ci, est documentée, que les projets qui sont dans le cadre de la route de la soie se fassent selon des standards, ce qu'on appelle des standards, c'est-à-dire des normes, c'est-à-dire quand vous allez avoir des appels d'offres, il va falloir que vous utilisiez des normes. Ça peut être des prises électriques, ça peut être un écartement des voies de chemin de fer, qui sont des normes définies uniquement par la Chine. Et donc, vous avez à la fois le risque de perte de compétitivité, si vous ne savez pas travailler selon ces normes, et puis aussi d'inconfort, parce que ce ne sont pas les normes que vous avez définies vous-même. Donc ça, c'est principalement l'inquiétude des Européens. Ceci étant dit, ce à quoi il faut répondre, c'est aussi une façon de proposer quelque chose en face de cela. L'Europe a légèrement infléchi sa position avec la réunion donc des trois leaders européens, Merkel, Juncker et Macron, en face de Xi Jinping.
Qui avait lieu hier à Paris.
Donc là, il y a une reprise d'initiative, c'est-à-dire, écoutez, on a beaucoup de sujets sur lesquels on a parlé séparément, de la même façon que l'Italie a parlé séparément avec vous. Ce qui est sorti de cette réunion à quatre, c'est quand même une dynamique que nous n'avions pas jusqu'à présent. Alors ça ne veut pas dire qu'on va signer le papier, mais ça veut dire qu'on a engagé une discussion avec la Chine en mettant beaucoup plus à plat et clairement les difficultés de dialogue et les points qui peuvent faire friction. Donc il y a une dynamique qui est enclenchée. Ça ne veut pas dire forcément que cette dynamique va déboucher sur les mêmes actions que celles qui concernent l'Italie, mais en tout cas, quelque chose a changé depuis hier.
Il y a quelque chose qui bouge. Merci beaucoup Jean-François Di Meglio d'avoir répondu aux questions de Salvador. N'hésitez pas à nous appeler si vous aussi vous avez des questions sur l'actualité, besoin de précision. Nous sommes joignables sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp au 33 6 89 28 53 64. Bonjour Aoui.
Bonjour Anne.
Vous êtes en ligne de Bujumbura, on vous écoute.
Oui, effectivement. L'ancien président brésilien Michel Temer est accusé dans l'affaire de corruption Lava Jato. Après avoir été brièvement arrêté, il a été libéré. Lula, lui aussi un ancien président brésilien, a été condamné dans la quête de la corruption Lava Jato. Comment expliquer que des anciens présidents de bords politiques différents ont été arrêtés dans l'affaire?
Alors après Dilma Rousseff destituée et Lula condamné à 12 ans de prison, effectivement un troisième ancien président du Brésil est mis en cause toujours dans le cadre de cette immense enquête que vous évoquiez qui est surnommée Lavage Express. Cette opération a révélé des financements illicites, financements par des commissions perçues sur des marchés publics qui étaient surfacturés, qui touchent beaucoup d'entreprises du pays et beaucoup de responsables politiques. On va essayer d'y voir plus clair avec l'historienne Armelle Enders de l'Université Paris 8. Bonjour.
Bonjour.
Comme le rappelait Aoui, notre auditeur Michel Temer ne fait pas partie du Parti des Travailleurs, de Lula, et pourtant, tous les deux ont été arrêtés dans le cadre de la même affaire.
Alors, c'est pas la même affaire, hein. C'est Lavage Jato qui est, comme vous l'avez dit, une opération judiciaire énorme, hein, qui commémore ses 5 ans d'existence à peu près en ce moment, touche à de nombreuses affaires. Et je voudrais vraiment insister sur le fait que ce qu'on reproche à Michel Temer, n'a vraiment rien à voir en volume et en nombre d'affaires et en enrichissement personnel avec ce qui a valu des condamnations à Lula, qui sont jusqu'à maintenant des bricoles, hein, et avec une disproportion des peines absolument spectaculaire.
Même grande enquête, mais des faits différents.
Des faits différents et d'ampleur différente et un traitement politique assez différencié aussi. Et puis d'autre part, que Dilma Rousseff n'a pas du tout été destituée pour corruption, hein, qu'elle a effectivement, elle est mise en examen, alors pas du tout pour des faits d'enrichissement personnel, dans un seul domaine, et que son honnêteté personnelle n'a jamais été mise en cause. Si les Brésiliens étaient vraiment contre la corruption, ils auraient gardé Dilma Rousseff comme présidente. Donc c'est vraiment très différent. Alors, ce que je voulais dire sur Michel Temer, c'est que c'est pas seulement... Alors effectivement, vous avez évoqué le PT, mais le parti auquel appartient Michel Temer et qui a été lié dans une coalition avec le PT pendant plusieurs années, est un parti quasiment organique, hein, du système politique brésilien, qui est dans tous les gouvernements ou presque depuis 40 ans, et qui est aussi au pouvoir dans beaucoup d'États de la fédération, et qui est un des partis le plus mis en cause pour des questions de corruption énormes. Et l'entourage de Temer est particulièrement visé. On a trouvé dans un appartement d'un proche de Temer 12 millions d'euros en liquide, la plus grosse prise jamais faite par la police fédérale, il y a quelque temps. Donc c'est vraiment énorme.
Ah oui, est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez savoir sur les déboires de l'ancien président Michel Temer, qui a donc été arrêté puis relâché lundi, mais donc qui est mis en cause pour corruption?
Oui, Anne, j'ai une deuxième préoccupation. Jair Bolsonaro, l'actuel président brésilien, pourrait-il bénéficier politiquement de cette arrestation, lui qui a été élu sur le thème de la corruption?
C'est vrai que c'était effectivement l'un des principaux thèmes de campagne et qu'il s'était présenté comme un rempart. Est-ce que cette mise en cause de Michel Temer peut bénéficier politiquement à son successeur, Armel Henders?
Alors, cette mise en cause de Michel Temer est une opération politique indirectement de Bolsonaro, mais surtout des juges de Lava Jato. Lava Jato est devenu un peu un état dans l'état au Brésil, y compris au sein de la justice brésilienne. Et ces juges sont très liés, enfin en tout cas leur chef de file, Sergio Moro, est devenu un ministre de Temer. Ils ont, Sergio Moro a beaucoup aidé, a beaucoup aidé Bolsonaro à accéder à la présidence de la République, hein, en éliminant politiquement Lula. Et là, ces juges viennent de subir un certain nombre de revers. Ils voulaient que l'argent récupéré de la corruption soit géré par eux dans un fonds spécial, hein, et ne revienne pas directement à l'État brésilien. Ils ont toutes sortes d'ambitions qui ont été contrecarrées récemment par le Congrès ou par la Cour suprême. Hein. Ils sont partis en guerre contre la Cour suprême. Donc le fait d'arrêter Temer, c'est une manière aussi de s'adresser à l'opinion publique. Hein. Ils sont soutenus, c'est presque une sorte de parti, entre guillemets, politique, ce courant des juges de Lava Jato. Et puis, effectivement, ça profite indirectement à Bolsonaro en faisant diversion, en rappelant effectivement ce thème du tous pourrés, du dégagisme qu'il a fait élire. Et puis, ça permet de faire diversion parce que, en ce moment, le Brésil et le gouvernement Bolsonaro est dans une crise politique extrêmement grave.
Et que lui-même est en proie à un certain nombre de polémiques, confronté à certaines polémiques.
C'est plus que des polémiques. Lui-même étant un politicien de tout à fait traditionnel, il y a toutes sortes de malversations autour de lui, hein, et une protection quand même là de la justice, un aveuglement assez troublant, et puis beaucoup plus grave. Sa famille et son propre fils est lié à ce qu'on appelle les milices, hein, qui sont des escadrons de flics plus ou moins pourris et assassins.
De quoi entacher considérablement l'image du nouveau président brésilien. Merci beaucoup Armel Henders d'avoir répondu aux questions d'Aoui.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.